Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Les liaisons dangereuses, de Pierre Chauderlot de Laclos, lettre 162. Le chevalier Danceny au vicomte de Valmont. Je suis instruit, monsieur, de vos procédés envers moi. Je sais aussi que, non content de m'avoir indignement joué, vous ne craignez pas de vous en vanter, de vous en applaudir. J'ai vu la preuve de votre trahison écrite de votre main. J'avoue que mon cœur en a été navré, et que j'ai ressenti quelque honte d'avoir autant aidé moi-même à l'odieux abus que vous avez fait de mon aveugle confiance. Pourtant, je ne vous envie pas ce honteux avantage. Je suis seulement curieux de savoir si vous les conserverez tous également sur moi. J'en serai instruit si, comme je l'espère, vous voulez bien vous trouver demain entre 8 et 9 heures du matin à la porte du bois de Vincennes, village de Saint-Mandé. J'aurai soin d'y faire trouver tout ce qui sera nécessaire pour les éclaircissements qui me restent à prendre avec vous. Lettre 163. Monsieur Bertrand à Madame de Rosemonde. Madame, c'est avec bien du regret que je remplis le triste devoir de vous annoncer une nouvelle qui va vous causer un si cruel chagrin. Permettez-moi de vous inviter d'abord à cette pieuse résignation que chacun a si souvent admirée en vous et qui peut seule nous faire supporter les maux dont est semée notre misérable vie. Monsieur votre neveu, mon Dieu, faut-il que j'afflige tant une si respectable dame? Monsieur votre neveu a eu le malheur de succomber dans un combat singulier qu'il a eu ce matin avec monsieur le chevalier Danceny. J'ignore entièrement le sujet de la querelle, mais il paraît, par le billet que j'ai trouvé encore dans la poche de monsieur le vicomte et que j'ai l'honneur de vous envoyer, il paraît, dis-je, qu'il n'était pas l'agresseur, et il faut que ce soit lui que le ciel ait permis qui succomba. J'étais chez monsieur le vicomte à l'attendre, à l'heure même où on l'a ramené à l'hôtel. Figurez-vous mon effroi en voyant monsieur votre neveu porté par deux de ses gens et tout baigné dans son sang. Il avait deux coups d'épée dans le corps et il était déjà bien faible. Monsieur Danceny était aussi là et même il pleurait. Ah, sans doute il doit pleurer, mais il est bien temps de répandre des larmes quand on a causé un malheur irréparable. Pour moi, je ne me possédais pas, et malgré le peu que je suis, je ne lui en disais pas moins ma façon de penser. Mais c'est là que monsieur le vicomte s'est montré véritablement grand. Il m'a ordonné de me taire, et celui-là même qui était son meurtrier, il lui a pris la main, l'a appelé son ami, l'a embrassé devant nous tous, et nous a dit « Je vous ordonne d'avoir pour monsieur tous les égards qu'on doit à un brave et galant homme. » Il lui a de plus fait remettre devant moi des papiers fort volumineux, que je ne connais pas, mais auxquels je sais bien qu'il attachait beaucoup d'importance. Ensuite, il a voulu qu'on les laissât seuls ensemble pendant un moment. Cependant, j'avais envoyé chercher tout de suite tous les secours, tant spirituels que temporels. Mais, hélas, le mal était sans remède. Moins d'une demi-heure après, monsieur le vicomte était sans connaissance. Il n'a pu recevoir que l'extrême onction, et la cérémonie était à peine achevée qu'il a rendu son dernier soupir. Bon Dieu, quand j'ai reçu dans mes bras à sa naissance ce précieux appui d'une maison si illustre, aurais-je pu prévoir que ce serait dans mes bras qu'il expirerait et que j'aurais à pleurer sa mort, une mort si précoce et si malheureuse? Mes larmes coulent malgré moi. Je vous demande pardon, madame, d'oser ainsi mêler mes douleurs aux vôtres. Mais dans tous les états, on a un cœur et de la sensibilité, et je serais bien ingrat si je ne pleurais pas toute ma vie un Seigneur qui a tant de bonté pour moi et qui m'honorait de tant de confiance. Demain, après l'enlèvement du corps, je ferai mettre les scellés partout, et vous pouvez vous en reposer entièrement sur mes soins. Vous n'ignorez pas, madame, que ce malheureux événement finit la substitution et rend vos dispositions entièrement libres. Si je puis vous être de quelque utilité, je vous prie de bien vouloir me faire passer vos ordres. Je mettrai tout mon zèle à les exécuter ponctuellement. Je suis avec votre plus profond respect, madame, votre très humble, Bertrand. Lettre 164. Madame de Rosemonde à Monsieur Bertrand. Je reçois votre lettre à l'instant même, mon cher Bertrand, et j'apprends par elle l'affreux événement dont mon neveu a été la malheureuse victime. Oui, sans doute j'aurai des ordres à vous donner, et ce n'est que pour eux que je peux m'occuper d'autre chose que de ma mortelle affliction. Le billet de Monsieur Danceny, que vous m'avez envoyé, est une preuve bien convaincante que c'est lui qui a provoqué le duel, et mon intention est que vous en rendiez plainte sur le champ et en mon nom. En pardonnant à son ennemi, à son meurtrier, mon neveu a pu satisfaire à sa générosité naturelle. Mais moi, je dois venger à la fois sa mort, l'humanité et la religion. On ne saurait trop exciter la sévérité des lois contre ce reste de barbarie qui infecte encore nos mœurs. Et je ne crois pas que ce puisse être dans ce cas que le pardon des injures nous soit prescrit. J'attends donc que vous suiviez cette affaire avec tout le zèle et toute l'activité dont je vous connais capable et que vous devez à la mémoire de mon neveu. Vous aurez soin, avant tout, de voir Monsieur le Président de ma part, et d'en conférer avec lui. Je ne lui écris pas, pressé que je suis de me livrer tout entière à ma douleur. Vous lui ferez mes excuses et lui communiquerez cette lettre. Adieu, mon cher Bertrand. Je vous loue et vous remercie de vos bons sentiments et suis pour la vie tout à vous. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of. I've been told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday, with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of. Lettre 165. Madame de Volanges à Madame de Rosemonde. Je vous ai déjà instruite, ma chère et digne amie, de la perte que vous venez de faire. Je connaissais votre tendresse pour Monsieur de Valmont et je partage bien sincèrement l'affliction que vous devez ressentir. Je suis vraiment peinée d'avoir à ajouter de nouveaux regrets à ceux que vous éprouvez déjà. Mais hélas, il ne vous reste non plus que des larmes à donner à notre malheureuse amie. Nous l'avons perdue hier à 11 heures du soir, par une fatalité attachée à son sort et qui semblait se jouer de toute prudence humaine, ce court intervalle qu'elle a survécu à Monsieur de Valmont lui a suffi pour en apprendre la mort, et, comme elle a dit elle-même, pour n'avoir pu succomber sous le poids de ses malheurs qu'après que la mesure en a été comblée. En effet, vous avez su que depuis plus de 2 jours, elle était absolument sans connaissance. Et encore hier matin, quand son médecin arriva, que nous approchâmes de son lit, elle ne nous reconnut ni l'un ni l'autre, et nous ne pûmes en obtenir ni une parole, ni le moindre signe. Eh bien, à peine étions-nous revenus à la cheminée, et pendant que le médecin m'apprenait le triste événement de la mort de Monsieur de Valmont, cette femme infortunée a retrouvé toute sa tête, soit que la nature seule ait produit cette révolution, soit qu'elle ait été causée par ces mots répétés de « Monsieur de Valmont » et de « mort », qui ont pu rappeler à la malade les seules idées dont elle s'occupait depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, elle ouvrit précipitamment les rideaux de son lit en s'écriant « Quoi, que dites-vous? Monsieur de Valmont est mort ?» J'espérais lui faire croire qu'elle s'était trompée, et je l'assurais d'abord qu'elle avait mal entendu. Mais loin de se laisser persuader ainsi, elle exigea du médecin qu'il recommençât ce cruel récit. Et sur ce que je voulus essayer encore de la dissuader, elle m'appela et me dit à voix basse « Pourquoi vouloir me tromper? N'était-il pas déjà mort pour moi ?» Il a donc fallu céder. Notre malheureuse amie a écouté d'abord d'un air assez tranquille, mais bientôt après, elle a interrompu le récit en disant « Assez, j'en ai assez ». Elle a demandé sur le champ qu'on fermât ses rideaux, et lorsque le médecin a voulu s'occuper ensuite des soins de son état, elle n'a jamais voulu souffrir qu'il approchât d'elle. Dès qu'il a été sorti, elle a pareillement renvoyé sa garde et sa femme de chambre. Et quand nous avons été seuls, elle m'a prié de l'aider à se mettre à genoux sur son lit et de l'y soutenir. Là, elle est restée quelque temps en silence et sans autre expression que celle de ses larmes qui coulaient abondamment. Enfin, joignant ses mains et les élevant vers le ciel, « Dieu Tout-Puissant, » a-t-elle dit d'une voix faible mais fervente, « je me soumets à ta justice, mais pardonne à Valmont. Que ces malheurs que je reconnais avoir mérités ne lui soient pas un sujet de reproche, et je bénirai ta miséricorde. » Je me suis permis, ma chère et digne amie, d'entrer dans ces détails sur un sujet que je sens bien devoir renouveler et aggraver vos douleurs, parce que je ne doute pas que cette prière de Madame de Tourvel ne porte cependant une grande consolation dans votre âme. Après que notre amie eut proféré ce peu de mots, elle se laissa retomber dans mes bras, et elle était à peine replacée dans son lit, qui lui prit une faiblesse qui fut longue, mais qui céda pourtant au secours ordinaire. Aussitôt qu'elle eut repris connaissance, elle me demanda d'envoyer chercher le père Anselme, et elle ajouta « C'est à présent le seul médecin dont j'ai besoin. Je sens que mes maux vont bientôt finir. » Elle se plaignait de beaucoup d'oppression et elle parlait difficilement. Peu de temps après, elle me fit remettre par sa femme de chambre une cassette que je vous envoie, qu'elle me dit contenir des papiers à elle, et qu'elle me chargea de vous faire passer aussitôt après sa mort. Cette cassette contenait toutes les lettres relatives à son aventure avec Monsieur de Valmont. Ensuite, elle me parla de vous et de votre amitié pour elle, autant que sa situation le lui permettait, et avec beaucoup d'attendrissement. Le père Anselme arriva vers les 4 heures et resta près d'une heure seul avec elle. Quand nous rentrâmes, la figure de la malade était calme et sereine, mais il était facile de voir que le père Anselme avait beaucoup pleuré. Il resta pour assister aux dernières cérémonies de l'église. Ce spectacle, toujours si imposant et si douloureux, le devenait encore plus par le contraste que formait la tranquille résignation de la malade avec la douleur profonde de son vénérable confesseur qui fondait en larmes à côté d'elle. L'attendrissement devint général. Et celle que tout le monde pleurait fut la seule qui ne se pleura point. Le reste de la journée se passa dans les prières usitées qui ne furent interrompues que par les fréquentes faiblesses de la malade. Enfin, vers les 11 heures du soir, elle me parut plus oppressée et plus souffrante. J'avançai ma main pour chercher son bras. Elle eut encore la force de la prendre et la posa sur son cœur. Je n'en sentis plus le battement. Et en effet, notre malheureuse amie expira dans le moment même. Vous rappelez-vous, ma chère amie, qu'à votre dernier voyage ici, il y a moins d'un an, causant ensemble de quelques personnes dont le bonheur nous paraissait plus ou moins assuré, nous nous arrêtâmes avec complaisance sur le sort de cette même femme, dont aujourd'hui nous pleurons à la fois les malheurs et la mort. Tant de vertus, de qualités louables et d'agréments, un caractère si doux et si facile, un mari qu'elle aimait et dont elle était adorée, une société où elle se plaisait et dont elle faisait les délices, de la figure, de la jeunesse, de la fortune. Tant d'avantages réunis ont donc été perdus par une seule imprudence. Ô Providence, sans doute il faut adorer tes décrets, mais combien ils sont incompréhensibles. Je m'arrête. Je crains d'augmenter votre tristesse en me livrant à la mienne. Je vous quitte et vais passer chez ma fille, qui est un peu indisposée. En apprenant de moi ce matin cette mort si prompte de deux personnes de sa connaissance, elle s'est trouvée mal et je l'ai fait mettre au lit. J'espère cependant que cette légère incommodité n'aura pas de suite. À cet âge-là, on n'a pas encore l'habitude des chagrins, et leur impression en devient plus vive et plus forte. Cette sensibilité si active est sans doute une qualité louable, mais combien tout ce qu'on voit chaque jour nous apprend à la craindre. Adieu, ma chère et digne amie. Lettre 166. Monsieur Bertrand à Madame de Rosemonde. Madame, en conséquence des ordres que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, j'ai eu celui de voir Monsieur le Président II, et je lui ai communiqué votre lettre, en le prévenant que, suivant vos désirs, je ne ferai rien que par ses conseils. Ce respectable magistrat m'a chargé de vous observer que la plainte que vous êtes dans l'intention de rendre contre Monsieur le Chevalier Danceny compromettrait également la mémoire de Monsieur votre neveu, et que son honneur se trouverait nécessairement entaché par l'arrêt de la cour, ce qui serait sans doute un grand malheur. Son avis est donc qu'il faut bien se garder de faire aucune démarche, et que s'il y en avait à faire, ce serait au contraire pour tâcher de prévenir que le ministère public ne prît connaissance de cette malheureuse aventure, qui n'a déjà que trop éclaté. Ces observations m'ont paru pleines de sagesse, et je prends le parti d'attendre de nouveaux ordres de votre part. Permettez-moi de vous prier, madame, de vouloir bien, en me les faisant passer, y joindre un mot sur l'état de votre santé, pour laquelle je redoute extrêmement le triste effet de tant de chagrin. J'espère que vous pardonnerez cette liberté à mon attachement et à mon zèle. Je suis avec respect, madame, votre... Won't somebody please help me with my misery? Can somebody see, yeah, what this world has done to me? See your face. Lettre 167. Anonyme à Monsieur le Chevalier Danceny. Monsieur, j'ai l'honneur de vous prévenir que ce matin, au parquet de la cour, il a été question, parmi messieurs les gens du roi, de l'affaire que vous avez eue ces derniers jours avec Monsieur le Vicomte de Valmont, et qu'il est à craindre que le ministère public n'en rende plainte. J'ai cru que cet avertissement pourrait vous être utile, soit pour que vous fassiez agir vos protections pour arrêter ces suites fâcheuses, soit au cas que vous n'y puissiez parvenir pour vous mettre dans le cas de prendre vos sûretés personnelles. Si même vous me permettez un conseil, je crois que vous feriez bien, pendant quelque temps, de vous montrer moins que vous ne l'avez fait depuis quelques jours. Quoique ordinairement, on ait de l'indulgence pour ces sortes d'affaires, on doit néanmoins toujours ce respect à la loi. Cette précaution devient d'autant plus nécessaire qu'il m'est revenu qu'une madame de Rosemonde, qu'on m'a dit tante de monsieur de Valmont, voulait rendre plainte contre vous, et qu'alors la partie publique ne pourrait pas se refuser à sa réquisition. Il serait peut-être à propos que vous puissiez faire parler à cette dame. Des raisons particulières m'empêchent de signer cette lettre, mais je compte que pour ne pas savoir de qui elle vous vient, vous n'en rendrez pas moins justice au sentiment qui l'a dictée. J'ai l'honneur d'être. Lettre 168. Madame de Volanges à Madame de Rosemonde. Il se répand ici, ma chère et digne amie, sur le compte de Madame de Merteuil, des bruits bien étonnants et bien fâcheux. Assurément, je suis loin d'y croire, et je parierais bien que ce n'est qu'une affreuse calomnie. Mais je sais trop combien les méchancetés, même les moins vraisemblables, prennent aisément consistance, et combien l'impression qu'elles laissent s'efface difficilement, pour ne pas être très alarmée de celle-ci, toute facile que je les crois à détruire. Je désirerais, surtout, qu'elles puissent être arrêtées de bonne heure et avant d'être plus répandues. Mais je n'ai su qu'hier, fort tard, ces horreurs qu'on commence seulement à débiter. Et quand j'ai envoyé ce matin chez Madame de Merteuil, elle venait de partir pour la campagne, où elle doit passer 2 jours. On n'a pas pu me dire chez qui elle était allée. Sa seconde femme, que j'ai fait venir me parler, m'a dit que sa maîtresse lui avait seulement donné ordre de l'attendre jeudi prochain. Et aucun des gens qu'elle a laissés ici n'en sait davantage. Moi-même, je ne présume pas où elle peut être. Je ne me rappelle personne de sa connaissance qui reste aussi tard à la campagne. Quoi qu'il en soit, vous pourrez, à ce que j'espère, me procurer, d'ici à son retour, des éclaircissements qui peuvent lui être utiles, car on fonde ces odieuses histoires sur des circonstances de la mort de Monsieur de Valmont, dont apparemment vous aurez été instruite, si elles sont vraies, ou dont au moins il vous sera facile de vous faire informer, ce que je vous demande en grâce. Voici ce qu'on publie, ou pour mieux dire, ce qu'on murmure encore, mais qui ne tardera sûrement pas à éclater davantage. On dit donc que la querelle survenue entre Monsieur de Valmont et le chevalier Danceny est l'ouvrage de Madame de Merteuil, qui les trompait également tous deux, et que, comme il arrive presque toujours, les deux rivaux ont commencé par se battre et ne sont venus qu'après aux éclaircissements, que ceux-ci ont produit une réconciliation sincère, et que, pour achever de faire connaître Madame de Merteuil au chevalier Danceny, et aussi pour se justifier entièrement, Monsieur de Valmont a joint à ses discours une foule de lettres formant une correspondance régulière qu'il entretenait avec elle, et où celle-ci raconte sur elle-même, et dans le style le plus libre, les anecdotes les plus scandaleuses. On ajoute que Danceny, dans sa première indignation, a livré ses lettres à qui a voulu les voir, et qu'à présent, elle court Paris. On en cite particulièrement 2. L'une où elle fait l'histoire entière de sa vie et de ses principes, et qu'on dit le comble de l'horreur. L'autre qui justifie entièrement Monsieur de Prévan, dont vous vous rappelez l'histoire, par la preuve qui s'y trouve qu'il n'a fait, au contraire, que céder aux avances les plus marquées de Madame de Merteuil, et que le rendez-vous était convenu avec elle. J'ai heureusement les plus fortes raisons de croire que ces imputations sont aussi fausses qu'odieuses. D'abord, nous savons toutes les deux que Monsieur de Valmont n'était sûrement pas occupé de Madame de Merteuil, et j'ai tout lieu de croire que Danceny ne s'en occupait pas davantage. Ainsi, il me paraît démontré qu'elle n'a pu être ni le sujet ni l'auteur de la querelle. Je ne comprends pas non plus quel intérêt aurait eu Madame de Merteuil, que l'on suppose d'accord avec Monsieur de Prévan, à faire une scène qui ne pouvait jamais être que désagréable par son éclat, et qui pouvait devenir très dangereuse pour elle, puisqu'elle se faisait par là un ennemi irréconciliable, d'un homme qui se trouvait maître d'une partie de son secret et qui avait alors beaucoup de partisans. Cependant, il est à remarquer que depuis cette aventure, il ne s'est pas élevé une seule voix en faveur de Prévan, et que, même de sa part, il n'y a eu aucune réclamation. Ces réflexions me porteraient à le soupçonner l'auteur des bruits qui courent aujourd'hui, et à regarder ces noirceurs comme l'ouvrage de la haine et de la vengeance d'un homme qui, se voyant perdu, espère par ce moyen répandre au moins des doutes et causer peut-être une diversion utile. Mais de quelque part que viennent ces méchancetés, le plus pressé est de les détruire. Elles tomberaient d'elles-mêmes s'il se trouvait, comme il est vraisemblable, que M. de Valmont et Danceny ne se fussent point parlé depuis leur malheureuse affaire et qu'il n'y eût pas eu de papier remis. Dans mon impatience de vérifier ces faits, j'ai envoyé ce matin chez M. Danceny. Il n'est pas non plus à Paris. Ces gens ont dit à mon valet de chambre qu'il était parti cette nuit sur un avis qu'il avait reçu hier et que le lieu de son séjour était un secret. Apparemment, il craint les suites de son affaire. Ce n'est donc que par vous, ma chère et digne amie, que je puis avoir les détails qui m'intéressent et qui peuvent devenir si nécessaires à Madame de Merteuil. Je vous renouvelle ma prière de me les faire parvenir le plus tôt possible. Post-scriptum, l'indisposition de ma fille n'a eu aucune suite. Elle vous présente son respect.